La célèbre foire aux puces pop revient en force du 23 au 25 septembre à l'église Saint-Denis, au 454 avenue Laurier-Ouest. Venez y admirer une vaste sélection de produits artisanaux faits à la main, y compris des bijoux, de la sauce piquante, des savons et des vêtements. Arrivez tôt pour magasiner et soutenir les artisans d'ici. Pour plus d'infos, consultez le site popmontréal.com. Les 23 et 24 septembre, Pop Montréal présente la sublime auteure-compositrice-interprète Émilie et Ogden en prestation dans la magnifique et intime Chapelle Saint-Louis de l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel. Le nombre de billets est très restreint, alors n'attendez pas avant d'en acheter. Pour en savoir plus et vous procurer des billets, rendez-vous sur le site popmontréal.com.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
Bonne nouvelle! Let's Eat Grandma figure au palmarès de choc.ca. Et devinez quoi? La formation donne son tout premier spectacle au Canada le 23 septembre au bar Le Ritz PDB. Précédez les tendances et assistez ici même dans le cadre du très cool festival Pop Montréal à la prestation de ce groupe dont tout le monde parlera sous peu. Pour obtenir des billets ou plus de renseignements, allez au popmontréal.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente votre animateur Simon Predge, et ce soir, Olivier ne sera pas avec nous. Des histoires de famille attachées dans le sous-sol, hein, vous voulez pas trop en savoir, sinon vous serez impliqués, hein, donc, hein, vous êtes avertis. Donc, Olivier sera de retour avec nous la semaine prochaine. On t'est mieux de nous préparer une maudite belle chronique, mon Oli. Mais c'est pas grave, hein. Pour compenser son absence cette semaine, j'ai invité un ami des oubliettes, le grand Philippe Spurrell du Ciné-Club Film Society. Bonsoir Phil, comment tu vas?
Ah, ça va très bien, merci pour le grand applaudissement, la foule qui m'entoure.
Ben quand c'est tout. Bon, ça fait beaucoup de monde dans le petit studio, mais quand ils ont su que tu serais présent, tout le monde voulait se déplacer pour l'événement.
Ouais. Super.
Excité par ta programmation cette année?
Oui, pas mal. En fait, on vient de débuter dimanche passé, le 11 septembre.
C'est ça,
une pure coïncidence qu'on a programmé un film qui s'appelle Blow Up le 11 septembre.
Bon timing.
Bon timing, c'est une pure coïncidence. Donc, alors, c'est un film d'Antonioni, puis je suis bien content parce qu'on a débuté la série avec notre saison avec Salle Comble. C'était...
Ah, cool. Mais je suis pas surpris, Blow Up, c'est un grand film, c'est assez c'est important.
Oui, et surtout cette année, c'est le 50e anniversaire.
En plus, hein?
Oui.
Cool.
C'est ça.
Donc, Phil, aujourd'hui, on va discuter de la programmation du Ciné-Club Film Society qui s'en vient. Mais juste avant, on a quelques petites annonces, hein. On en a parlé la semaine précédente. Il y a Pop Montréal qui va accueillir John Waters pour toute une soirée. Il va y avoir la projection de This Filthy World. Ça va se passer le samedi 24 septembre au Théâtre Rialto à la salle Saint-Ambroise. C'est 40$. Les portes sont à 19h, le spectacle à 20h. C'est à ne pas manquer, ça va être assez phénoménal. Mm-hmm. C'est pas souvent qu'on a la chance de rencontrer M. Waters.
Ah oui, c'est sûr. Ouais,
ça va être quelque chose.
Ouais.
Aussi, McFly Event Espasme qui présente Back to the Future 3 en version française. Donc, hein, il avait présenté le 1, le 2 là, en grande pompe et là,
et récemment, Ferris Bueller.
Oui, Ferris Bueller, oh, ben,
j'étais
oui, qu'on a
là,
découvert.
C'était formidable.
Quel party!
Oh, c'était extraordinaire.
Alors, on s'attend à un gros party de western, en tout cas. Beaucoup de cowboys, des bottes de foin,
oui,
puis des chemises carottées. Ça risque d'être assez cool. Donc, ça, c'est le 7 octobre à 20h, 20$ au Club Soda de Montréal, à ne pas manquer. Hein, je vous rappelle, passez le mot à vos amis aussi à Saint-Jérôme, parce que je vais aller vous présenter la conférence Grindhouse, la folle histoire du cinéma d'exploitation. Ça va avoir lieu le jeudi 20 octobre à 20h à la bibliothèque des frères Marie-Victorin Saint-Jérôme, donc, et c'est gratuit, donc hein, profitez-en, ça va être fort fascinant, je crois, et donc il y a d'autres présentations pour Sherbrooke et Montréal, peut-être Québec qui s'en viennent, ça on en reparlera éventuellement. Aussi, hein, je le dis jamais assez, prenez une petite seconde, venez nous liker sur iTunes, ça fait toute la différence, je l'ai dit la semaine dernière, tant qu'on n'a pas suffisamment de likes et de commentaires sur le podcast des Oubliettes sur iTunes, on n'apparaît pas dans le moteur de recherche. Donc, hein, t'aimes-tu ça, les Oubliettes? Tu l'écoutes chaque semaine? Prends deux secondes, viens juste cliquer like, écris j'aime ça ou j'aime pas ça, puis that's it, c'est réglé, on t'écœure pas avec ça. Après, on va aller chercher un plus grand auditoire par la suite avec ça. Donc, sauf que là, hein, la programmation du Ciné Club, peut-être un petit rappel pour les gens qui connaissent pas le Ciné Club Film Society. Donc, c'est toi, Phil, qui a fondé le Ciné Club. Ça fait combien de temps déjà?
En 92. Alors,
92,
ah,
hein?
Oui, l'année prochaine, ça va faire 25 ans.
Wow! OK,
ouais.
Fait qu'on s'attend à une grosse programmation
d'anniversaire
l'année prochaine.
Oh, oui, pas mal. On va faire une grande fête, là, vendue, ouais.
Cool. Puis, moi, ce que j'aime du Ciné Club Film Society, c'est qu'il fait pas juste présenter des films en salle, il présente des films en pellicule. Généralement, 35 mm, toujours des petits trésors à trouver. Ouais. Ça, c'est assez hot.
Oui, ça, c'est une des choses qui nous distingue un peu. Je sais pas, il y a de moins en moins de place, c'est
ouais,
sûr, qui présentent des films dans leur format argentique, comme on dit.
Ouais.
Il y a la Cinémathèque québécoise, parce qu'ils ont leurs propres archives, ce qui est formidable. Puis je crois, Cinéma du Parc fait de temps en temps.
De temps en temps, oui.
Mais à part ça, c'est rare.
Mais ils vont pas, à part la Cinémathèque, c'est une zone à part, bien sûr, mais à part eux, sortir des vieux films, comme toi tu le fais, là, des petits bijoux du cinéma, de tous les genres, il y en a très peu, effectivement, qui font ça. Au Québec, t'es parmi la poignée qui survivent.
Ben, ces jours-ci, je dis de plus en plus, parce que le monde me demande, c'est quoi votre programmation, c'est quoi ton but? Moi, je dis, on concentre sur les premières 100 ans du cinéma. Du monde qui ne savent pas, le cinéma a débuté dans les années 1890-95 alentour, puis jusqu'au mi-années 90. Ça ne veut pas dire qu'on ne présentera pas de films des années 2000, mais quand même, c'est ça le mandat principal. Et l'autre mandat, c'est qu'on le présente dans les formats originaux.
Incluant les courts-métrages, ça serait quoi le film le plus vieux que tu as présenté? T'as-tu le souvenir?
Mais en fait...
Parce qu'on a des... On va en parler bientôt, là. On a deux petits bijoux assez rares, là, en pellicule,
oui,
qui s'en viennent cette année. Là.
L'année passée, c'était tout un hit. C'était sale comble. C'était sold out même 10 jours avant. Au Festival Fantasia, j'ai présenté quelque chose qui s'appelle Méliès et
oui,
Magie.
Oui, genre Méliès.
Oui, ça fait que, moi, je dirais des films de Méliès. Fin du 19e siècle, le début du 20e siècle.
Ouais, j'étais présent, c'était vraiment excellent. Très belle soirée, autant
de
couleurs.
On veut le répéter, peut-être le mettre en tournée au Québec. Je pense qu'il y aurait du monde.
Ah oui, c'est clair, ben oui.
Ouais, la façon qu'on a fait ça, ouais.
Parce qu'il n'y a pas juste les gens de Montréal qui ont le goût de voir des bons films.
Oh, ouais, c'est
on a
sûr.
Peut-être plus de goût, mais il y en a d'autres ailleurs qui aimeraient découvrir aussi ces films-là.
C'est sûr.
Cool. Ben là, cette année, comme tu l'as dit, hein, tu as commencé la semaine dernière avec Blow Up. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Dans ta programmation cette année?
Comme d'habitude, c'est très varié. Je vais essayer de faire ça.
Vas-y, on a le temps.
Les raisins de la colère, Grapes of Wrath, un véritable chef-d'œuvre de John Ford. C'est, si on se fie sur IMDb, Internet Movie Database, J'ai checké, apparemment, il y a presque 2 millions de longs-métrages. 2 millions de longs-métrages sur IMDb. Les Raisins de la colère, c'est 220. Fait que c'est dans les top.
Fait
qu'essaie de... Imaginez, parmi 2 millions de films, c'est rendu dans les...
C'est le top, de, c'est dans le top mondial, c'est le 220e
mais
film.
C'est ça. Mais c'est sûr, c'est plus dans le cinéma dramatique. Ça, ce sera ce fin de semaine qui s'en vient.
Ça, c'est quand même un film de 1940. Puis ça, c'est présenté en 35.
Celui-là, c'est une copie 16, mais 16? C'est quand même une très belle copie.
Cool.
Alors ça, c'est le 25 septembre, le 7 et 8 décembre, octobre.
Ça, j'ai hâte.
OK.
Ça, je suis excité. Le poil qui me lève sur les cérébraux.
Ça, c'est quelque chose qu'on fait deux fois par année. C'est un genre d'événement levé de fonds. On loue une vieille église gothique et qui est équipée avec un orgue Cassavant fait Trois-Rivières, je pense, les orgues Cassavant. C'est fait, en tout cas, fabriqué au Québec. Fait qu'il y a l'orgue. Alors, on va présenter... le vendredi, samedi, le 7 et 8 octobre. En première partie, le cabinet du docteur Caligari. Ensuite, un entracte de 20 minutes. On revient avec Nosferatu.
Okay, avez-vous écouté ça à la maison, là? Hein? T'as-tu entendu ça dans tes oreilles? Nosferatu puis Caligari en même temps dans une église gothique.
En programme double.
Et avec la musique.
Avec la musique. À part du fait qu'on peut acheter du popcorn et de la bière, qu'on peut consommer dans l'église.
Il peut y avoir de la bière.
Oui, de la bière qu'on peut consommer dans l'église.
Ça aussi, c'est hot. Là. Ça arrive pas souvent qu'on peut boire de la bière dans une église.
Alors, nous avons 4 musiciens, musiciennes, notamment des musiciens sur piano, orgue, violoncelle, percussion et pour ceux, il n'y a pas tout le monde qui... C'est quoi? Un theremin.
Oui, on va avoir un theremin. Oh, ça, j'aime ça. En fait, le theremin, pour ceux qui... Tout le monde, tous les fans d'horreur qui nous écoutent l'ont déjà entendu sans le savoir.
Où tu dis le début du chanson des Beach Boys, Good Vibrations.
Ah oui, c'est vrai.
Ce qu'on entend au début... C'est ça, le theremin.
Mais t'entends ça aussi dans les films de science-fiction des années 50.
It came from outer space, Day the Earth stood still.
Ça, c'est un des seuls instruments que tu joues sans le toucher, d'ailleurs.
Oui,
hein? Pour ceux qui ignorent, ça marche, ça fonctionne un peu avec les ondes radio.
T'as deux antennes. Tu sors d'une boîte et tu bouges tes mains, tes bras et ça donne
Il capte dans le fond les ondes avec la main. Ouais. Plus tu te rapproches de ta main de l'antenne, plus le son devient aigu, plus tu l'éloignes, plus il devient plus grave. C'est vraiment... excite encore plus.
Oh, et puis un des meilleurs à Montréal s'appelle Adam Callahan. C'est lui qui va jouer le theremin.
Cool.
Qui va accompagner le cabinet du docteur Caligari parce que ça fait...
Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien pour celui-là.
Question, les compositions musicales, est-ce que c'est des compositions qui vont être improvisées ou compositions originales?
Ils font des répétitions. Alors, moi, je dis que c'est 50% improvisation, 50% je donne comme des indices.
Des moments clés.
Des moments clés, exactement. Fait que c'est ça. Alors, fait que ça, c'est le 7 et 8. C'est un vendredi, samedi. Ouais. Et le soir après, le 9 octobre, j'ai décidé de faire quelque chose un peu différent.
Ouais, c'est cool, ça, comme idée.
J'appelle ça les Habs au cinéma, Hockey Night at the Movies. En fait, c'est des extraits, des petits clips, des courts-métrages, tout rapport avec ce que j'appelle l'art et la culture des Habs de Montréal, les Canadiens de Montréal. Que ce soit des films expérimentaux, des films de dessin animé. J'ai même quelque chose où c'est du stop-motion avec des Lego. Bloc Lego. et un documentaire où on voit des images des Habs dans les années 20.
Wow.
Alors, c'est toute une soirée...
Tu dirais que c'est... est-ce que ça, c'est le plus vieux des années 20? Puis ça va jusqu'à quelle année, à peu près?
On va concentrer sur les années 20 jusqu'au... En fait, on va projeter des images de 1909 jusqu'à 96.
Ah oui, quand même, hein?
Et ce qu'on va marquer ce soir-là, puis j'ai un ami, il s'appelle Ezra Seuferman, il vient de sortir un livre de photos qui s'appelle « Le dernier match », parce qu'il était là avec sa caméra pour prendre des images du dernier match des Canadiens. Ils jouaient contre les Dallas Stars.
Okay.
C'était le dernier match des Canadiens au Forum de Montréal.
Oh, au Forum, fait
OK. Que c'était une genre de célébration de...
Avant que ça ferme.
C'est ça, avant que ça ferme. Fait que c'est 20 ans plus tard. Fait que juste pour revivre ces moments-là.
Ah, cool.
Fait que ça, c'est une soirée dédiée aux...
aux fans de hockey puis du Canadien. Ouais, hein, ça, va être pas manqué.
Oui, on va avoir plein d'images de Maurice Richard et Jean Béliveau. Et j'ai des images de Jean Béliveau quand il jouait... Je pense que à Sherbrooke ou je sais pas quelle ville, avant de devenir un membre des Canadiens.
Huh.
Alors, quand il avait peut-être 17 ans. Alors, cool. Il y a ça. 23 octobre, ça, c'est notre projection 35 mm pour l'Halloween. 25e anniversaire de Silence of the Lambs, le silence des agneaux. Alors, on a une...
Silence des agneaux en 35 mm. Ouais. Alors, aussi, on n'aura pas la chance de revoir ça bien, bien souvent. Hein?
Alors, c'est ça. Fait qu'on va présenter ça le 23, une semaine avant l'Halloween. Puis l'Halloween...
Ben là, c'est classique. Hein? Là, toi, ouais. Pour les gens qui l'ignorent, hein, ben tout le monde sait qu'à chaque Halloween, la tradition veut qu'on fasse un party du Rocky Horror Picture Show. Ben, à Montréal, c'est Phil Spirrell qui s'en charge.
Oui, et c'est ça fait 19 ans que je le présente.
Ah oui,
c'est à Montréal.
Même.
Ça va faire 5 ou 6 ans qu'on présente ça au Cinéma Impérial. Et je peux dire facilement que c'est le plus grand en Amérique du Nord en termes d'assistance.
Ah ouais, hein?
Une fin de semaine, là, tu vas voir des milliers de personnes qui vont visiter le Cinéma Impérial. Alors, pour avoir plus d'enseignements là-dessus, c'est www.rockyhorrormontréal.com.
Ouais.
Pour avoir plus de renseignements là-dessus. Vous allez sûrement entendre et voir des
affiches partout. Ça s'en vient. C'est toujours dans le week-end de l'Halloween. Oui, donc, on va en entendre parler. C'est ça. Les détails s'en viennent.
C'est ça, le 28, 29 et 31 octobre. Alors, mais sans arrêter, là, une
semaine...
Il
n'y a jamais de pause.
Il n'y a jamais de pause. Alors, Silence of the Lambs, Rocky Horror. La semaine après, moi, j'ai vraiment hâte. Pour ceux qui ne connaissent pas... Willis O'Brien, ils peuvent apprendre tout sur Willis O'Brien. Willis O'Brien, c'est le superviseur d'effets spéciaux, directeur d'effets spéciaux dans les années 20 et 30 sur beaucoup de films de genre. Notamment, les deux films que nous allons présenter, The Lost World, Le Monde Perdu, pas celle de Spielberg.
1925,
avec plein de stop motion, avec des dinosaures et plein de choses. Et ça serait accompagné... d'un pianiste.
Ah ouais, OK, cool. Oui, parce que c'est un film muet, c'est ça.
C'est un film muet, c'est ça. Et ça va être au Théâtre Hall de l'Université Concordia où le monde a sûrement entendu parler de cette, ou connaît cette place-là pour le Festival Fantasia où presque toutes les projections sont dans cette grande salle. Lost World sera suivi de King Kong 1933.
L'original, le classique.
Oui. On a réussi de mettre les mains sur une copie 35, une version restaurée de 2008.
OK, cool.
Sur le 75e anniversaire. Et c'est une version qui provient de la France. Alors, c'est sous-titré en français.
OK, cool.
C'est une belle copie 35 sous-titrée en français de King Kong.
1933.
1933, puis c'est toujours une bonne occasion de présenter ce film-là.
Ben, King Kong, c'est un classique, hein?
Oui. Alors, deux semaines plus tard, c'est un film... de Robert Bresson, Les Dames de Bois de Boulogne. Et le 4 décembre, c'est un film qui s'appelle Love Me Tonight, Aimez-moi ce soir. C'est un film, ce qu'on appelle le pre-code. C'est l'époque avant que Hollywood imposait des règlements.
Un certain code de la décence.
Oui, exactement.
Pour ramener la décence dans le cinéma hollywoodien qui était complètement décadent.
Oui.
Donc, quand on parle du pre-code, on a des images sexy, on a un peu plus de violence.
C'est ça, exactement. Fait que le film que nous allons présenter, il y a beaucoup de dialogues avec des sous-entendus, des doubles sens.
Okay.
Et des choses, des femmes habillées dans des costumes pas mal osés, risqués.
1932, en plus, c'est vraiment la limite avant que Joseph Breen commence à rentrer dans le tas et dise non, là, c'est fini. Le party est terminé.
Oui. Alors, c'est ça. Fait qu'on termine la saison avec ça et on revient au mois de janvier avec une autre...
nouvelle programmation.
Programmation.
Qu'on parlera ici, éventuellement.
Oui, mais il y a d'autres belles surprises qui s'en viennent pour ça.
Cool. cool. Ben, justement, il y a des affaires qui se préparent entre nous autres. On prépare une petite soirée. Là, pour l'instant, on ne fait qu'en parler, mais on va s'organiser ça après les fêtes. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais, moi, ta collection, elle me fascine. Ben, comme beaucoup de gens, parce que je l'ai jamais vue. Hein?
Okay.
Moi, ouais. Hein, je suis le genre de gars qui aime voir pour comprendre et,
Oui, mais. Je t'inviterai à faire un tour oui! nos archives.
Ah, oh, tu me fais plaisir, là, Phil.
All right.
Mais on parle de combien de pellicules que tu possèdes, toi, là,
dans ta collection? Les archives contiennent... c'est des milliers de bobines, mais facilement 500 longs-métrages, peut-être 750 courts-métrages, peut-être 1200... bande-annonce.
OK, je m'attendais pas autant, là.
Ah, oh, oui, oui.
Non, parce que c'était plus une collection, puis qu'il y avait du roulement, puis que tu faisais des échanges.
Quand tu développes une obsession pour quelque chose, que ça soit des bobines de films ou des DVD, tu te ramasses un jour, tu te recules, puis tu dis, ah, oh, oui, OK, ça commence à être...
Wow, OK.
Alors...
on précise à la maison, hein, là, on parle de bobines, là, de pellicules, oui. 8, 16, 35 millimètres. Oui, oui, là-dedans, il n'y a pas de VHS ou même de Laserdisc.
Moi, je collectionne des disques laser. Moi, j'adore les disques laser. J'en collectionne, mais ça, c'est chez moi. Mais les archives se trouvent à Ville-et-Mort.
OK.
Pas loin du métro Monk.
Puis tu loues un local pour ça? C'est une espèce d'entrepôt?
Non, c'est un local. En fait, on l'a converti. Il y avait plusieurs locales faites de bois.
OK.
Puis c'était contre les règlements de la ville d'avoir des locales, des casiers faits de bois. Fait qu'ils ont tout enlevé ça. Fait que j'ai rencontré un propriétaire du bâtiment. Il dit, j'ai tout un grand espace vide où les plafonds, les planchers, les murs sont tous en béton. Pas de fenêtre, rien. Fait que pour moi, c'était comme...
C'est idéal.
C'est idéal parce qu'on est plus capable de contrôler la température. C'est déjà dans un sous-sol où s'il fait moins chaud, alors on fait rouler un climatiseur.
Oui, parce que ça, c'est quoi l'entretien?
Ça doit important. Être difficile quand même. Oui, là. Parce que le but important, c'est jamais dépasser... mettons 19-20 degrés Celsius.
OK.
Et avoir une humidité qui est quand même qu'on le sent pas trop. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'entretien. On est chanceux parce que on a une entente avec l'Université Concordia qui nous commandite là, en partie les projections. Et l'entente, c'est que ils nous fournissent des étudiantes comme stagiaires
pour
nous aider à entretenir, inspecter, réparer, cataloguer toutes les copies de films.
Oh, wow! Okay.
Oh, mais c'est beaucoup de...
Ah, mais c'est cool, ça. Autant pour les bénévoles qui participent que de la part de Concordia, c'est vrai que c'est cool.
Mais bien sûr, parce que c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Mm. Mettons, si tu veux être... un garagiste, un mécanicien d'auto, si tu veux faire être stagiaire, il y a des centaines, des milliers de garages où tu peux, tu sais, observer, mais archives de pellicules, il n'y en a pas beaucoup.
Non,
c'est
t'as
très
la cinémathèque, il y a toi, puis il n'y a pas ça.
Oui,
c'est pas mal c'est ça, là.
Ouais, c'est ça.
Ça s'arrête là.
Ouais, alors pour ceux qui s'intéressent, ils trouvent ça fascinant que tu sont capables de salir leurs mains en touchant...
Wow, c'est cool. J'avoue que j'avais pas impressionné par la quantité.
C'est
vraiment hot. Puis, est-ce que tu possèdes des films au nitrate? Je suis curieux.
Juste quelques échantillons et sont contenus dans des boîtes faites spécialement.
OK.
Mais c'est vrai que...
Ouais, peut-être tu pourrais expliquer aux auditeurs, c'est quoi les pellicules au nitrate, en fait?
Les pellicules au nitrate, c'était le format, surtout en 35 mm, le format, la pellicule le plus commun avant les années 50.
OK.
Et c'était très inflammable. Très, très, très... Pour ceux qui ont vu Inglourious Basterds, c'était tout ce que
À savoir. C'est le meilleur exemple.
C'est le meilleur exemple, c'est ça, exactement.
Ça brûle comme 10 fois plus vite que le papier.
Oui, c'est ça. Et malheureusement, c'est la cause de la perte de beaucoup de films les années 50.
Des films disparus à cause de ça.
Carrément des énormes entrepôts pleins de bobines de films en nitrate qui sont toutes il n'existait plus.
Il n'y a pas eu un feu. Ben, je sais qu'il y a deux studios.
Il y a studios. Plusieurs feux. Oh,
il y a deux studios majeurs, justement, qui ont eu des feux dans leurs entrepôts. Puis, ouais. Si je ne me trompe pas, il y a Fox, entre autres.
Fox, oui, oui. Fox, ouais. C'était un parmi quelques autres.
Mais ça, je vais en parler à l'émission éventuellement. Je suis en train de préparer une petite émission spéciale, genre parler des films qui sont disparus, justement. Oui. Comme ça, je vais en reparler.
Oui,
mais
oui, oui.
Je trouve ça fascinant, justement, ouais. Un film au nitrate.
Et même le nitrate, c'était la cause d'une grande tragédie ici à Montréal.
Oui, c'est vrai.
C'était Hochelaga. J'essaie de me rappeler le nom du cinéma, mais...
Vas-y, je vais fouiner pendant ce temps-là. Oui. Si tu veux raconter
oui, c'est
ce
devenu
que tu
comme
te souviens,
un genre de théâtre. Là. Oui, ce que je me souviens, c'est que c'est début des années 30, il y avait un feu qui s'est commencé dans une cabine de projection. C'était des bobines de films nitrate.
Au Laurier Palace.
Au Laurier Palace.
C'est ça.
Il y avait...
9 janvier 1927.
27. Ah ouais, je pensais que c'était les années 30, mais 1927.
Ouais.
Mais regarde qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait un feu, puis à cause que les portes étaient bloquées, il y a 88 enfants qui sont décédés dans la salle même. Et le nom du film qui roulait pendant, c'est « Get 'em Young ».
Oh, wow.
Imagine.
Oh, ouch.
Get 'em Young.
On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues.
Oh, oui, c'est vraiment fou. Mais
ouf,
regarde.
88, hein, quand même.
Oui, 88 jeunes avant tout.
Wow, hein.
Surtout, ils se sont étouffés puis tremplés.
Ouais.
Et à cause de cet incident, ils ont passé des lois au Québec.
Mm.
Personne en bas de 16 ans a accès à des salles de cinéma. C'est pour ça qu'il y a toutes des générations de Québécois en bas de 16 ans. Ils ont eu l'expérience du cinéma dans des sous-sols d'église, dans des centres communautaires, mais pas dans des salles de cinéma.
C'est trop dangereux, c'est trop risqué.
C'est ça. Alors, il y avait une explosion de distributeurs de films 16 mm.
Ah, OK.
Et le Québec était le plus grand distributeur de films 16 mm en Amérique du Nord à cause de ça.
Ah, ouais.
Oui, oui, oui. Et ça veut dire qu'il y avait des collections partout. Et ouais. Une partie de ces collections se sont ramassées dans les archives du Ciné-Club. Alors, beaucoup de monde y ont des souvenirs d'avoir vu, surtout des films de Disney. Le monde d'une certaine génération,
ouais.
Ils l'ont pas vu dans une salle de cinéma, ils l'ont vu dans un sous-sol d'église. Ou, ouais.
Huh. C'est fascinant. Ça.
Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est seulement dans les années 60 qu'ils ont décidé de laisser rentrer les jeunes en bas de,
okay, cool.
De 16 ans. Ouais, mais c'est ça, les nitrates. Oui, c'est comme le gunpowder. C'est comme le.
Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Ça brûle vite.
Oh, ouais.
Ben, Phil, hey,
oui.
Merci énormément pour ta visite aux Oubliettes.
Très bienvenue.
C'est encore une fois une belle programmation.
Merci beaucoup.
J'ai bien hâte. Moi, j'ai déjà mes billets pour Camille du Dr. Calgary, Nosferatu. J'avoue que Lost World, King Kong me tente bien gros.
Ah oui, tu seras pas déçu, là.
Ça va être difficile de manquer le silence des agneaux aussi. Donc, on vous invite, hein. C'est quoi ton site web pour toute la programmation
oui,
de Ciné Club?
Site web, c'est très simple. C'est cineclubfilmsociety.com et on a une page Facebook
aussi,
avec
ouais.
Plus que 3000 likes maintenant. C'est / Cine Club Film Society. Alors, c'est ça.
Cool. Ben, merci encore, Phil. Puis,
très bienvenue.
On va te réinviter au prochaine programmation, prochaine saison.
All
merci
right.
Beaucoup de ta visite. On va aller prendre une petite pause musicale. On va aller écouter Lord Luther qui nous chante Teenage Creature. Et on vous revient tout de suite après aux Oubliettes sur choc.ca.
Was a junior wolfman tonight. There's a werewolf moon. Come and hold my hairy hand down at the Black Lagoon. I was a teenage creature. I was a high school monster, teenage Frankenstein. Let me take you in my arms, curse you. One more time. Got a face like a dog, feet like a frog. I'm covered with a lizard scale. Gotta cut a hole in my old blue jeans.
for my slimy tail. I was a body snatcher, youth of sweet red green. Do you think that you would dare go steady with the thing? I was a teenage creature. I was a teenage vampire, a rock and rolling goo. Won't you let a Dracula walk you home from school? Well, I live in a hole, I look like a mole, a horrible sight to see. If you hear a growl, I'm out on the prowl, and honey, you for me. I was a teenage spider, and you're a junior miss. Give a boy tarantula his very first kiss.
Kiss, kiss.
I was a teenage creature. I was a teenage creature. I'm always scaring you. So point a stake straight at my heart, then darling, drive it through. I was a teenage creature.
Twitch of the Death Nerve. The first motion picture to require face-to-face warning. Every ticket holder must pass through the theater's final warning station. We must warn you face-to-face. Warning. Diabolical. Fiendish. Savage. Twitch of the Death Nerve. You may not walk away from this one.
Donc, on vient d'entendre la vieille publicité radio de Twitch of the Death Nerve qu'Olivier a parlé la semaine dernière. J'aurais dû l'avoir la semaine dernière, mais je l'ai trouvé cette semaine. Qu'est-ce que tu veux? Pas de talouère. La chronique que je fais aujourd'hui, c'était supposé être la chronique de fin d'émission, mais bon, comme Olivier est pas là, ben on bouge un peu les affaires. On va parler un petit peu plus. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, je remplace jusqu'à Halloween toutes les VHS insolites que je pourrais parler pour les anthologies d'horreur, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Les anthologies, c'est quoi? C'est toujours des films, en fait, qui ont une mise en scène de base, une espèce de canevas, une petite histoire qui englobe plusieurs autres histoires sur le thème de l'horreur, hein. Il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Les plus récents, je dirais que ce serait peut-être la série VHS. Mais bon, nous autres, on veut parler des vieux, parce qu'il y en a beaucoup, puis il y en a qui valent la peine, d'autres qui valent pas trop la peine. Puis j'ai commencé avec une cassette que je trouve très belle, hein, dans ma collection de cassettes VHS. J'adore l'affiche de ce film-là. Je me suis dit, ah, je vais me le taper, puis finalement, c'est un 50-50. J'aurais de la misère à aller plus haut que 5-6 sur 10, mais c'est pas grave, c'est quand même un film qui mérite d'être découvert. C'est un film du Royaume-Uni, Tales That Witness Madness. En tout cas, hein. C'est un film, en fait, la version française, c'est Les Contes aux Limites de la Folie, c'est ça. C'est un film de 1973 qui a été réalisé par Freddie Francis. C'est un caméraman reconnu qui aura aussi réalisé quelques classiques du genre, là. Après Creeping Flesh, il a réalisé 7 anthologies pour World Film Service, à ne pas confondre avec les Amicus Productions de l'époque qui nous ont beaucoup pondu d'anthologies dans les années 70. La majeure partie des anthologies des années 70, c'était des films produits par Amicus Productions. Donc, même si le style est très similaire, c'est pas un film d'Amicus dans ce cas-ci, hein, mais plutôt World Film Service. C'est une des rares anthologies anglaises non produites par Amicus. Donc, le film a été écrit sous le titre Witness Madness. Attends, je vais même pas mettre une musique d'ambiance. On va justement mettre le soundtrack du film, là. Pas bien longue, mais ça va faire un petit fond pour l'instant. Donc, hein, ça a été écrit sous le titre Witness Madness. La production a décidé ensuite d'ajouter Tales That, suivant le très populaire Tales from the Crypt qui était sorti un peu avant ça. Donc, hein, dans ce cas-ci, il y a 4 histoires et une mise en situation. Donc, la mise en situation rappelant beaucoup l'anthologie précédente de 72, Asylum, que je parlerai peut-être d'ici Halloween, il me tente celle-là. Donc, hein, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. On a Donald Pleasance, docteur d'un hôpital psychiatrique, qui expose ses théories au sujet de 4 de ses patients et un collègue sceptique qui vient le visiter. Et donc, à chaque patient qui visite, leur histoire est racontée. Malheureusement, c'est très peu développé, alors on n'a aucune idée de ce que c'est, finalement, sa théorie ou ce qui connecte les 4 patients ensemble. On pourrait théoriser aisément, mais c'est pas vraiment le point, là. Hein. Le point, c'est que c'est très sous-développé et ça fonctionne pas vraiment, là. Hein. J'ai une théorie, je sais pourquoi ces gens-là ont peur. Mais c'est tout ce qui est dit. C'est un peu bizarre, c'est un peu vide, puis c'est dommage, mais bon. C'est pas le plus grand rôle de Donald Pleasance, mettons. Hein. C'est quand même le fun, là, mais c'est un peu mal amené. Mais donc, quelles sont les 4 histoires de ce film-là? On a un Mr. Tiger. On commence avec Mr. Tiger, que j'ai quand même aimé, même si, hein, on s'entend, c'est filmé un peu à la téléfilm, hein. Fait que c'est sûr que, attendez-vous pas du gros gore, là. Mais Paul, donc, on a Paul, qui est un enfant, qui a un ami imaginaire, un tigre, rien de moins. Sauf que sa relation avec son ami imaginaire va dégénérer. Il commence à voler des os puis de la viande pour son tigre, dans la cuisine du manoir. Il y a des traces de griffes qui commencent à apparaître sur les portes. Rien pour calmer ses parents qui se chicanent déjà constamment. Mais lorsqu'ils décident d'en parler à l'enfant et rejeter leur frustration sur lui, ils auront droit à une sanglante surprise. Donc, hein, c'est une histoire qui est courte, qui va droit au but, hein, pas de flafla. C'est une histoire d'une, je dirais, une quinzaine de minutes max, là. C'est filmé avec une certaine ingéniosité qui fonctionne, c'est-à-dire que lorsque l'enfant parle à son tigre, c'est filmé avec l'enfant qui parle à la caméra. Alors, bien sûr, on ne voit pas son ami imaginaire. Ou peut-être qu'on se trompe. Mais bon, hein, c'était une façon quand même intéressante et facile, hein, vous direz, d'amener le fait que son ami est supposément imaginaire. Donc, Mr. Tiger pour la première histoire. Quand même bien intéressante. J'ai aimé comment... Je veux pas vous le spoiler, mais j'ai aimé le visage de l'enfant qui joue du piano dans la fin de l'histoire. Ça vaut la peine. Je jetterai un coup d'œil. Aussi, on a Penny Farthing, Timothy, c'est le nom du personnage, Timothy, c'est pas très très masculin, mais c'est ça. Timothy hérite d'une boutique d'antiquaires qui appartenait à son oncle, hein, c'est l'histoire du cadre hanté de son oncle et son vélo antique à voyager dans le temps. Ouais, c'est... je saurais pas comment expliquer mieux ça, mais en fait, si je l'explique, ça va spoiler l'histoire, donc je vais éviter de le faire, mais en fait, c'est ça, c'est un cadre hanté, et il y a une espèce de vélo antique. Donc, c'est pas très bon, hein, ça fait pas vraiment de sens, c'est dur à comprendre, puis c'est un peu garroché. Comme on doit raconter l'histoire rapidement, on peut pas vraiment se plonger dans une lente exposition des émotions des personnages, c'est fait beaucoup trop rapidement, et ça fonctionne pas, hein, on dirait que ça aurait nécessité un peu plus de développement des personnages, puis une lente descente aux enfers, mais dans ce cas-ci, c'est ça. C'est peut-être trop rapide, ça mais anyway, même si ça fonctionnait, l'histoire est pourrie, là. Puis le visage de l'oncle dans le cadre, son visage bouge dans le cadre, hein. C'est comme si sa photo se déplaçait, donc, avec diverses émotions, dépendamment de ce qui se passe. Mais c'est ça, pour l'inclure comme personnage à l'histoire, on aurait eu assez d'une quarantaine de gros plans du cadre. Malheureusement, on a opté pour nous en faire 3000 et ça devient vite ennuyeux, puis insupportable, ça fonctionne pas. Mais pas autant que l'histoire suivante. La suivante s'appelle Mel. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui va trouver un morceau de bois assez imposant dans la forêt près de chez lui. Il décide de l'apporter à la maison pour en faire une décoration. Le nettoyer, le sabler un peu, puis en faire une décoration. Au grand désespoir de sa femme, qui trouve le morceau de bois complètement horrible, il a vaguement forme humaine, hein, avec une tête, des bras, et il bouge. Mais ça, il n'y a que le spectateur qui le voit. Hein. C'est clairement une histoire de dendrophilie, le fétichisme des arbres et des plantes. Je ne vous en dis pas plus, mais à un certain point, le gars devra choisir entre le morceau de bois et sa femme. C'est complètement absurde, là. On dirait un épisode de Chair de poule, là, tu sais, Goosebumps, dans le temps qui était écrit par R.L. Stine avant qu'il sorte en émission, là. C'est trop ridicule. C'est vraiment complètement ridicule. Le gars, il trippe un peu trop. La fille est sexy dans la chambre, là, pis le gars, il préfère sabler son bout de bois lit, là. Elle l'appelle « Hey! Hey! Viens donc dans la chambre! » Pis lui, il s'en sac, il fait juste jouer avec son bout de bois, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? En tout cas, on y croit pas tellement, pis le punch est encore plus ridicule. Mais je dirais que... c'est un peu, même la musique, ça sonne comme une comédie des Trois Stooges. Donc, c'est un peu, folichon, niaiseux, c'est pas l'histoire horrifiante du lot, mettons, hein. Mais, il y a une approche intéressante quand même dans le film, dans le vous verrez, hein. C'est cheap, mais trop absurde pour que quiconque trippe sur cette histoire. Le seul bon point de cette histoire, c'est la femme magnifique et duquel on verra un sein nu, ce qui sécurise, pardon, le film dans une zone de rated R. C'est assez surprenant quand on a un style de téléfilm de soudainement avoir un mamelon, mais bon, hein, ça fait une surprenante surprise. Donc, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dernière histoire qui, c'est celle que moi j'ai appréciée le plus avec Mr. Tiger. L'histoire s'appelle Luo. Donc, c'est un séduisant auteur célibataire en provenance des îles exotiques de l'Amérique du Sud qui doit faire une certaine cérémonie, une vieille superstition qui éviterait à sa mère mourante de vivre dans le tourment pour l'éternité après son décès. Donc, il est reçu chez une vieille riche et sa jeune et jolie fille pour une grande fête hawaïenne en son honneur. Parce que, bon, c'est un auteur adulé. Et il profitera de cette soirée pour effectuer son fameux sacrifice cérémoniel à l'insu des invités et de l'organisation du party. Est-ce que la mère et la fille tomberont sous le charme de Kimo? Kimo, c'est le nom de l'auteur. Est-ce qu'ils vont tomber sous son charme? Je ne vous en dis pas plus, même si vous êtes en mesure de prévoir la suite. Hein, c'est quand même une bonne histoire. Un tantinet longue, mais bien amené. C'est prévisible, mais on s'entend. Là, c'est un film de 72. Là, c'est quand même bien amené, pareil. Beaucoup plus intéressante que les deux histoires précédentes, ça c'est sûr. La mère dans cette histoire devait être jouée, en fait, par Rita Hayworth, mais elle commençait à faire de l'Alzheimer et paraît qu'elle errait complètement perdue sur le plateau. Ils l'ont remplacée assez rapidement par l'actrice Kim Novak après 5 ans d'absence au cinéma et ça paraît. Elle semble un peu avoir perdu la touch. Aussi, l'acteur jouant le collègue sceptique dans la mise en scène principale, Jack Hawkins, aux côtés de Donald Pleasance. Hein. Ça a été son dernier rôle. Il commençait à perdre la voix à cause d'un cancer de la gorge, pendant le tournage. Alors, il a joué le rôle, mais sa voix a été doublée par l'acteur Charles Gray par la suite. Mais dans l'ensemble, les acteurs sont tous très bons, à part peut-être Kim Novak. Mais c'est clair qu'on visait un large public parce qu'il y a peu de gore ou de violence à l'écran. Les seules scènes de violence sont cachées ou jouées hors cadre. Toutefois, on dirait qu'ils l'ont échappé une ou deux fois, notamment avec le nipple slip ou dans l'histoire de dendrophilie du morceau de bois sexy. Mais bon, hein, max 5 sur 10, je dirais. Manque de visuel aguichant. 2 histoires sur 4 sont pourries. La mise en scène principale est pas assez développée. En contrepartie, les acteurs sont majoritairement très bons. Les deux bonnes histoires sont le fun, mais pas assez pour sauver le film. Tu sais, dans l'ensemble, j'ai quand même eu du plaisir, mais sans plus. Il va être partagé éventuellement sur le blog, une autre anthologie la semaine prochaine. Donc, on va prendre une petite pause musicale encore une fois. On va écouter un groupe que j'aime beaucoup, là, The Horrors, dans le temps que c'était bon, parce qu'à cette heure, c'était un peu vedge, on dirait qu'ils sont retombés des années 80, malheureusement. Mais The Horrors, avec leur chanson du premier album éponyme, Draw Japan. Et on vous revient tout de suite après avec une histoire assez intéressante que je pense que vous allez triper. Je vous reviens tout de suite après. Aux oubliettes sur choc.ca. Plastic cages. Moi, je vais vous raconter la légende du Golden Eagle. Hein? Qu'est-ce que le Golden Eagle? En fait, hein, tout le monde a vu le film de 1983, Christine, basé sur le roman de Stephen King et réalisé par John Carpenter. Sans l'ombre d'un doute, c'est un grand classique. Mais peu de gens savent que c'est inspiré d'une histoire vraie. Il existe une voiture à Old Orchard dans le Maine qu'on croit possédée par le démon et qui aurait tué plusieurs personnes au cours de sa vie. On parle ici d'une Dodge 330 édition limitée de 1964 qu'on appelle la Golden Eagle, la voiture la plus démoniaque des États-Unis. Voici son histoire. La voiture originalement a été achetée pour être une voiture de police pour Old Orchard Beach. Cette année-là, toute une flotte de voitures Dodge a été achetée, mais il paraîtrait que dès sa sortie de l'usine, les problèmes ont commencé pour celle-ci. La voiture était incontrôlable. Il était très difficile de la conduire parce qu'elle semblait avoir une vie bien à elle. Elle contrôlait elle-même le volant, faisant des tournants sans qu'on puisse ramener le volant. Elle pouvait changer de vitesse toute seule, soit en ralentissant de force, soit en augmentant de la vitesse pour aller jusqu'à 200 km/h. Elle était beaucoup trop dangereuse. En plus, on raconte qu'elle drainait l'énergie des voitures à proximité, mais pas que les voitures, là, aussi les montres ou autres objets électroniques, comme s'il y avait un certain magnétisme autour de la voiture. Les trois seuls policiers qui ont conduit la voiture seraient tous décédés dans une étrange histoire de meurtre-suicide, tuant ainsi toute leur famille. Mais est-ce qu'une légende? Hein? J'ai trouvé aucune info sur ces policiers. Toutefois, à cause de ces problèmes, la voiture ne fut jamais officiellement utilisée par la police et a été amenée dans une décharge pour être détruite. Mais elle a ensuite été vendue finalement à un vieil homme du coin. Mais c'est à partir de là qu'elle a commencé à acquérir une très mauvaise réputation. L'homme l'a peinturée d'une couleur affreusement dorée, qui donnait plus l'impression de flamme jaunâtre et lui a donné finalement le nom de Golden Eagle. Donc, son apparence effrayante et l'incapacité du propriétaire à la contrôler a lancé sa légende et les gens du coin détestaient la voiture. À cause de ses nombreux problèmes, le vieil homme a décidé finalement de l'entreposer et d'arrêter de l'utiliser. Elle fut oubliée donc pendant plusieurs années. Éventuellement, en 1975, la voiture fut découverte, rangée et abandonnée, et elle a été envoyée pour être détruite, mais un collectionneur de voitures l'a vue juste à temps pour la sauver. C'était un modèle unique. Hein? Seulement 5000 de ces voitures ont été produites, et on estime qu'il en reste moins de 1000 dans le monde aujourd'hui. Monsieur Allen a payé 100$ le ferrailleur pour l'obtenir. Monsieur Allen ne croyait en rien les superstitions démoniaques entourant la voiture, étant certain que c'était juste un problème mécanique de fabrication. Il a retapé la voiture en entier, mais ça n'a rien changé. Parmi les problématiques, bon, les portes de la voiture ouvraient sans raison, les ceintures se détachaient toutes seules pendant que la voiture était en mouvement sur l'autoroute. Les passagers prétendaient même qu'ils s'étaient sentis à plusieurs reprises expulsés hors de la voiture. Donc, c'est un petit peu dangereux. En la retapant, M. Allen a trouvé même du sel de mer un peu partout dans les entrailles du véhicule, comme si elle avait été submergée dans l'océan. Après quelques recherches, on a découvert que la voiture avait été plongée en bas d'un pont, entraînant ses passagers avec lui. Le volant aurait commencé à se déplacer par lui-même pendant qu'il était sur un pont, sans qu'on puisse le contrôler. Il aurait fait un virement complet, fonçant droit sur la barrière, puis terminant sa course dans l'océan. Personne n'a été blessé par miracle et on a pu sortir la voiture de l'eau, mais ça serait arrivé à plusieurs reprises, ça. Et donc, c'est à ce moment que le vieil homme aurait décidé de l'entreposer et de cesser de l'utiliser. Parce que c'était pas la... après deux, trois fois, à un moment donné, qu'il te pitche dans l'océan, comme si c'était attiré par un aimant. Hein? Il a décidé de la serrer. En 7 ans, plus de 40 visites chez le mécanicien pour les Allen. Aucun problème a été trouvé sur la voiture et pourtant, elle continuait ses agissements dangereux. On dit que de tous les garages Old Orchard, seulement un mécanicien acceptait de travailler sur le Golden Eagle, les autres ayant trop peur de sa réputation. Wendy Allen rapporte, la fille donc de M. Allen, rapporte que la voiture aurait tué au moins 14 personnes au total, mais le chiffre pourrait être beaucoup plus grand. Dans les années 80-90, des membres de plusieurs églises locales l'ont vandalisé la voiture, et chacun des vandales serait décédé suite à l'attaque. Certains dans d'horribles accidents, dont un accident de voiture donc qui a tué plus d'un de ces vandales, décapité par un 18 roues. Selon Allen, les 32 vandales religieux seraient tous morts dans des circonstances étranges. 4 d'entre eux ont notamment été tués par la foudre. Pas juste un, là. 4. Ça commence à être dur comme coïncidence, là. Mais les morts les plus étranges autour de la voiture sont des enfants. En 1979, une fillette de 10 ans aurait été percutée par une voiture sur la route et le corps de la jeune fille aurait volé dans les airs jusque sur le bumper de la Golden Eagle, stationné dans le stationnement des Allen pour y mourir avant que les secours arrivent. Les gens se sont souvenus que dans les années 60, la même chose était arrivée. Une autre petite fille aurait elle aussi été percutée par une voiture. Elle a volé dans les airs, terminé sa chute mortelle sur le Golden Eagle, stationné sur le toit de la voiture. Très étrange et effrayante coïncidence. Donc, dans les années 80, il paraît qu'on trouvait souvent des animaux morts aussi à proximité du véhicule, des chats, des chiens, même des oiseaux. Les Allen l'utilisaient, entre autres, parfois pour faire du covoiturage. C'était une grosse voiture, on pouvait rentrer jusqu'à 8 personnes serrées dedans. Donc, hein, ils l'utilisaient pour faire du covoiturage pour aller à l'église. On raconte qu'une fois, le volant, ok, comment dire, le volant aurait fait un brusque tournant par lui-même et aurait pourchassé deux chiens terriers pour finalement les écraser sous ses roues en plein devant l'église. Et plusieurs témoins. C'était la dernière fois qu'elle fut utilisée pour aller à l'église. Donc, les citoyens étaient terrifiés, en colère, prétendant que la voiture était possédée par le démon et qu'il fallait la détruire. Il était courant que la voiture soit vandalisée par les gens du quartier. Une fois, on a même rempli la tank à gaz de sable provenant de la plage. Tout le système de gaz a dû être reconstruit. Une autre fois, quelqu'un aurait lancé une grosse pierre à travers de la vitre pendant qu'elle roulait avec les passagers à l'intérieur. Heureusement, personne n'a été blessé. L'histoire la plus récente et la plus bizarre, c'est en 2008. Un enfant s'est fait mettre au défi de simplement toucher la voiture. Il l'a fait. Dans les semaines qui ont suivi, il a tué toute sa famille, incluant le chien, et a mis le feu à la maison familiale. Est-ce seulement le hasard? C'est possible. Aujourd'hui, la voiture est en morceaux parce qu'en 2010, une religious freak d'une église locale a décidé que c'en était assez. La femme a volé la voiture, elle l'a démolie et a donné les morceaux à plusieurs décharges pour pas qu'on puisse la remonter. Mais Wendy Allen, la fille de M. Allen, qui était maintenant propriétaire de la voiture, a fait un appel de détresse sur Internet et grâce à ça, la grande majorité des pièces ont été retrouvées et retournées à Wendy, fille de M. Allen, qui à ce moment-là était sans abri et vivait dans la voiture. C'était sa maison. Localement, Wendy est connue sous le nom de Sea Witch of Old Orchard Beach, ou si vous préférez, la sorcière de la mer d'Old Orchard. Et les gens prétendent qu'elle se sort de la voiture pour donner des mauvais sorts. Selon elle, ce sont juste des superstitions ridicules. Sinon, pourquoi la voiture ne s'est jamais attaquée à elle, hein? Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Bien sûr, l'histoire du Golden Eagle emprunte beaucoup à la légende et aux superstitions locales, mais il reste que même si seulement 15% de l'histoire est vraie, une fois de plus, la réalité dépasse les fictions. Donc, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Je vous promets le retour d'Olivier la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Hein? On a assez fait. Hein? J'avais préparé d'autres petites histoires, mais on va se les garder pour une autre fois. Je peux bien vous le spoiler. J'avais peut-être le goût aussi de parler de Poltergeist 3. Pas Poltergeist 3, mais plutôt Poltergeist 4, qui n'existera probablement jamais. Du projet de prequel qui est mort dans l'œuf, finalement. Mais je garderai cette belle anecdote pour une autre fois. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de nous liker sur iTunes. Hein? On en a besoin. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour les oubliettes éventuellement. On vous prépare un peu de merch pour financer le podcast et plusieurs projets. On est en train de travailler là-dessus. Ça s'en vient. Sinon, on a retapé le site un petit peu. C'est des petits détails subtils, mais ça fait du bien un petit ménage sur le blog. Et chaque semaine, je vous partage les films qu'on discute ici sur le blog. Bien sûr, j'ai pas partagé Christine parce que hein, ça se trouve partout en DVD. C'est pas bien difficile à trouver. Il suffit d'écrire Christine Streams en ligne. Vous allez le trouver. Vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, je vous ai partagé Tales That Witness Madness. Il va être disponible pour une semaine. Et ensuite, on enchaîne à la prochaine émission, mardi prochain. C'est un rendez-vous. Pour encore une fois, un autre épisode d'horreur. On parle d'horreur, 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 jusqu'à Halloween. J'ai hâte, je suis excité, j'ai le poil qui me lève. Donc, on va taire le soundtrack de Christine qui joue en background, composé par John Carpenter. Et on va aller écouter une chanson creepy. Moi, je la trouve creepy, je trouve qu'elle a une belle ambiance. C'est une chanson, d'ailleurs, que vous avez entendue au cinéma à quelques reprises. Une chanson composée par Willie Bobo, Fried Neck Bones and Some Home Fries. Et c'est un rendez-vous. On se revoit la semaine prochaine aux oubliettes sur choc.ca. Merci, créature.